en réplique, ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout, nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Passé de 3 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios, il est l'heure du Canu Info comme tous les jours de la semaine, ou presque 19h-20h, l'équipe de jeudi qui a failli pas venir est quand même venue. Des fois on se force un peu, hein, parce que ça a été...
Un faux pour nous, mais nous sommes quand même là derrière le micro.
Voilà, on va souhaiter à tous ceux qui souffrent, tous ceux qui perdent des êtres chers, de garder courage et de garder espoir. La vie n'est pas toujours très facile.
Voilà, et on dédicacera ce Canu Info à Bibi.
Voilà, exactement. On va parler de plein de choses dans ce Canu Info. On va commencer par faire quelques petites lyonnaiseries pour parler des gens qu'on n'aime pas, du coup, plutôt. On va parler après des profiteurs. Ce qui revient souvent, qu'on n'aime toujours pas non plus. On parle beaucoup de gens qu'on n'aime pas. Hein. On parlera, après un petit peu de réchauffement d'écologie, de santé, peut-être d'élections, de théâtre. Enfin voilà, de pas mal de choses, vous allez voir.
Le
programme, malgré tout, sera relativement conséquent. Et je vais commencer par des lyonnaiseries. La première, c'est un truc sympathique qui nous vient du Conseil de l'Ordre du Barreau de Lyon, qui, comme nous, a pris connaissance du merveilleux, du magnifique, du génial projet de loi par Gérard Collomb, donc membre du Front National. Ah non, c'est pas ça. Membre de La République En Marche, pardon, je me suis trompé. Il a juste les idées. Donc son projet qui s'appelle « Pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif », sous-titré « Pour envoyer le maximum de personnes qui ne seraient pas nées sur ce territoire en les faisant souffrir au maximum », ça aussi, ils l'ont effacé, ce sous-titre, bizarrement. Bon, bref, le Conseil de l'Ordre du Barreau de Lyon, donc la réunion des avocats de Lyon, certains ils vont peut-être pas tous, mais c'est leurs représentants et ils sont invités à tous y aller, ils ont condamné ce projet de loi, ils ont, je cite, « dénoncé une atteinte inacceptable à l'état de droit et à la dignité humaine ». Je continue de citer. « Sous couvert d'une protection annoncée du droit d'asile, le Conseil de l'Ordre du Barreau de Lyon constate qu'il y aura de ce fait une accélération des procédures au détriment des demandeurs d'asile eux-mêmes et des droits de la défense. » Voilà. Ils ont rappelé trois conséquences les plus négatives du projet de loi. La première, la réduction du délai de recours à l'encontre d'une décision initiale de l'OFPRA, l'office pour où ils font les demandes d'asile, qui passe de 30 à 15 jours, ce qui est matériellement du coup maintenant insuffisant pour rencontrer les réfugiés, les aider, remplir les documents qu'il faut, que ce soit médical, que ce soit des expertises, etc. Ils ont noté aussi que y aurait une suppression du caractère suspensif des recours des demandeurs d'asile provenant de pays dits d'origine sûre, puisque là ils vont être envoyés manu militari tout de suite, et il y aura entre autres la multiplication du recours à la vidéo audience pour le demandeur d'asile, donc à distance, sans face à face avec le juge, ce qui crée d'après eux une justice désincarnée, et c'est tout. Nous allons dans leur sens, voilà. Donc, pour continuer de les citer, ils ont, face à ces différentes atteintes, qu'est cet ignoble projet de loi, Donc ils ont rappelé, je cite, que l'engagement envers les demandeurs d'asile relève du droit à la dignité humaine et des droits fondamentaux. Donc pour eux c'est important. Gérard Collomb, il n'aime pas la dignité humaine, il n'aime pas les droits fondamentaux puisqu'il les rabote. Donc bref, les avocats lyonnais ont donné leur avis négatif sur cet horrible projet de loi. Donc voilà, après bon, il y a d'autres instances d'avocats qui ont déjà réagi. C'est voilà, ça nous fait quand même un petit peu plaisir que ça soit dans la ville d'où est issu Gérard Collomb. Ça a dû arriver ailleurs en France, mais nous on l'a su pour ici. Donc voilà, c'est une bonne réaction de l'ordre du barreau de Lyon, c'est-à-dire des avocats de Lyon. Alors toujours dans les lyonnaiseries, on va parler des transports en commun lyonnais, puisque aujourd'hui on est le 1er mars et que le ticket de métro a augmenté. Au lieu de coûter 1,80€, il passe à 1,90€. Ça l'autre prouve dégagé. Si vous êtes plus assez riche, vous allez marcher à pied. Donc tout augmente. Alors je crois qu'on a le ticket de bus le plus cher de France maintenant, puisque 2,20€ si vous achetez un ticket dans le bus. C'est quand même pas mal. Bon voilà, tout augmente, sauf les titres scolaires et étudiants. Parce qu'ils vont attendre la rentrée prochaine en septembre pour les augmenter. Voilà. Alors c'est intéressant d'avoir cette info parce que on a parlé la semaine dernière que en Allemagne ils se posaient des questions sur un des moyens qui est reconnu efficace pour lutter contre le déplacement automobile individuel, et c'est-à-dire la pollution qui est engendrée par ce déplacement. On le sait, on a des alertes pollution aux particules et pollution tout court d'ailleurs à Lyon, en grande partie due au transport à l'automobile individuel. En Allemagne, ils réfléchissent à basculer, à faire des essais et à basculer sur le transport en commun gratuit, donc qui est plus qu'incitatif du coup, pour laisser sa voiture, si on a une voiture, au garage et prendre les transports en commun. Ben Lyon fait l'inverse. Lyon augmente le prix pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de personnes qui prennent des bus, des fois qu'il faille développer les transports en commun, qui sont déjà quand même bien chargés à Lyon. Mais non, faut surtout pas les développer. Voilà. Bon, bref, c'est une honte totale. Et dernière honte, parce que bon, y en a plein. Enfin non, on était content de l'ordre du barreau de Lyon quand même. C'est l'inauguration de ce matin au musée Gadagne. A été planté un olivier de la paix. Bon, je dis bon, c'est sympa, un olivier de la paix, tout ça. Sauf qu'en fait, il est planté et il a été inauguré par Georges Kepenekian, donc le maire de Lyon, et l'ambassadrice d'Israël, Aliza Bin Noun, qui est venue inaugurer la plaque et l'arbre qui pousse dessous. Donc la plaque qui rappelle l'amitié solide qui lie la ville de Lyon à Israël. Et là on se dit, mais c'est quoi ce truc? Comment peut-on faire un truc en disant que c'est quelque chose qui concerne la paix avec l'État d'Israël, la représentante officielle française de l'État d'Israël, un État qui est en guerre, qui occupe illégalement un nombre incroyable de terres, qui met en prison des gens sans les faire passer par la justice? C'est un truc de dingue. Alors heureusement, le collectif 69 Palestine avait organisé une petite manifestation, donc ils n'étaient pas très nombreux, parce que bon, un jeudi matin, il y a des gens qui travaillent, etc. Mais symboliquement, ils étaient là, ils se sont fait virer manu militari par les forces de répression françaises et lyonnaises, sous l'ordre, entre autres, de monsieur Kepenekian, qui n'aime pas les manifestants. Bon, ils les ont pas tabassés non plus, mais... Donc qui dénonçaient, eux, ce que je viens de dire, l'attitude d'Israël. On rappelle qu'il y a un Français qui est en prison, un franco-palestinien, enfin du coup français, hein, parce que palestinien, on sait pas bien, c'est la Palestine n'existant pas officiellement. Il est français, il est en tôle en Israël, alors qu'il n'a rien fait, et c'est pas la première fois. Hein, c'est Salah Amouri, il y a plein d'autres gens comme ça qui sont en prison en Israël, et qui passent pas par la case justice. Hein, vous savez qu'on peut être en prison sans passer par la case justice en Israël. Un truc issu de la colonisation anglaise, qu'ils ont gardé, bien évidemment, quand c'est un truc répressif, ils gardent. Donc voilà, et alors Kepenekian a réagi, il a dit qu'il avait, il a pas rencontré les manifestants, mais il comprend leurs revendications. Et je cite, il dit, tout le monde peut s'exprimer, mais il ne faut pas aggraver la situation. Je pense qu'on a surtout besoin de sérénité en ce moment. Sauf qu'en fait, c'est pas de sérénité dont il est question. C'est-à-dire qu'il inaugure un truc de la paix avec la représentante officielle d'Israël en France, ça veut dire qu'il est, il a à aucun moment critiqué Israël. Ça veut dire qu'il est d'accord. Il est d'accord avec la colonisation, il est d'accord avec l'incarcération de Salah Amouri et des autres, il est d'accord du vol des terres, il est d'accord des assassinats, il est d'accord de tout ça, de tout ce que fait Israël. Voilà. Et c'est triste, parce que c'est pas comme ça qu'on va lutter et contre et pour la paix en Israël, et encore moins contre la montée de l'antisémitisme qui est récupérée par tous ceux qui sont désespérés parce que tous les politiques ont des comportements sympathiques avec Israël, et les gens pas très intelligents ont comme recours d'être antisémite, alors que c'est pas tous les juifs du monde qui sont en Israël, on le rappelle, et que tous les Israéliens ne sont pas juifs. Même si Israël essaye de transformer l'État d'Israël en un État juif, il y a une vingtaine de pourcents de personnes qui sont dits arabes palestiniens. Hein, donc voilà, c'est plus compliqué que ça. Mais ça, malheureusement, ce genre de comportement développe cet horrible antisémitisme dont on n'arrive vraiment pas à se débarrasser. Merci, M. Kepenekian. Et pourtant, il a un historique familial, tout ça, qui aurait pu faire penser qu'il était contre les pays qui attaquent les autres, qui occupent les autres. Bah, comme quoi, hein, il a la vue courte.
Alors, on va ouvrir une petite rubrique profiteur, mais avant tout ça, je vais commencer par la Corée du Sud et une plutôt bonne nouvelle. Ça fait longtemps qu'en Corée du Sud, il y a une volonté de réduire le temps de travail. Il faut savoir que c'est un des pays développés dans lequel les travailleurs et les travailleuses travaillent le plus. C'est assez énorme. Alors, il faut savoir que il y avait une possibilité pour les travailleurs et les travailleuses sud-coréens de travailler jusqu'à 68 heures. C'est beaucoup.
C'est pas mal, hein, quand même.
C'est pas mal. Alors, on va passer à 52 heures. Alors, en fait, ces 52 heures, ça fait des années qu'on en parle. On en parlait déjà sous Madame Park. Je vous rappelle l'ancienne présidente destituée en mars 2017. Là, l'idée, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, les Sud-Coréens et Sud-Coréennes travaillaient 40 heures par semaine du lundi au vendredi. À ces 40 heures, s'ajoutent 12 heures supplémentaires que tout le monde faisait. Mmh. Hein. Et l'astuce en Corée du Sud, c'est qu'on travaille le week-end. Et,
oui.
Et là, il y avait 16 heures en plus. Et vous avez arrivé comme ça à vos 68 heures. Un truc de dingue. Et là, il y a donc un nouveau président qui s'était engagé dans sa campagne à réduire le temps de travail. Il y a finalement eu un espèce de compromis qui fait que les heures de week-end vont être plus compliquées à faire. L'idée, en fait, c'est de forcer les entreprises de plus de 300 salariés à ne plus faire travailler leurs salariés le week-end. C'est pas gagné, attention, hein, parce que c'est pas dit qu'on passe à 40 heures semaine ou à 52 heures semaine. C'est que les 16 heures du week-end, elles vont être taxées différemment et qu'elles vont pouvoir encore exister au cas où. Sauf que ça va être très compliqué maintenant pour ceux et celles qui voudront travailler le week-end dans les entreprises de plus de 300 salariés. Alors tout ça va être mis en place, hein, à partir du 1er juillet prochain. Pour les autres à moins de 300 salariés, il va falloir attendre 2021. C'est pas pour tout de suite. Donc l'idée, c'est deux choses pour le gouvernement actuel. C'est d'avoir une meilleure qualité de vie pour les salariés. Hein, oui, nous on est contents avec nos 35 heures, hein, en général. En tout cas, c'est acté comme tel. Mais voilà, l'idée, c'était quand même de favoriser une meilleure qualité de vie et puis, de se battre aussi contre le chômage et de pouvoir permettre à plus de gens de travailler. Parce qu'effectivement, eh ben, quand vous êtes au boulot 68 heures, vous en occupez des postes. Hein, vous avez là quand même deux boulots, quoi. C'est bien, hein, deux personnes pour un même emploi. Donc là, l'idée, voilà, c'est de changer aussi une mentalité, de changer le travail, d'avoir une autre qualité de vie et puis de faire en sorte que les grandes entreprises, les Chebel, aient moins d'emprise sur le travail et que les choses changent un petit peu. Voilà, bon, ça, c'était pas une... Ah, juste aussi pour vous dire que le Madame Park, ou là où on en est aussi, mardi, le procureur a demandé 30 ans de prison ferme contre l'ancienne présidente, c'est quand même pas mal, et une amende de 118 milliards de won. On s'emballe pas, je vous rappelle les won.
C'est pas cher.
C'est, mais ça fait quand même du 110 millions de dollars.
Ouais, quand même.
Hein, à peu près le même, un peu moins donc en euros.
Alors on n'est pas trop pour la prison, mais pour les dirigeants politiques comme elle, on est.
Bah, pas je veux qu'elle paye l'amende en tout cas. Si tu veux, je vous rappelle qu'elle.
Je pense que elle a fait un petit peu de la liberté, ça nous ferait plaisir vu la catastrophe que ça a été.
Bon, un autre truc qui nous amuse, tu te souviens.
J'ai failli la faire la semaine dernière, l'info.
Voilà, bon, on va la faire cette semaine parce que ça me fait marrer quand même. C'est ces fameux vélos verts qui étaient un autre système de location de vélos que les fameux Vélov, Vélib et autres vélos installés à la base par JCDecaux dans les villes. Il y avait donc de la concurrence qui se mettait en place. Et donc, c'est Gobi Bike qui avait installé ces vélos verts. C'est-à-dire, le principe, c'était, vous avez peut-être vu ça, ils sont posés n'importe où, ils sont pas attachés. Hein, et puis après, c'est avec des applis, et puis on débloque le système.
Voilà, il y a un antivol hollandais là sur la roue arrière, là, et qu'on débloque avec une appli qui. Voilà, et on vous ponctionne un peu d'argent, etc.
Alors, on rappellera, c'est une société de Hong Kong, à la base, hein, effectivement, qui tente de s'installer un petit peu de partout à l'international. Et en France, ça n'a pas marché, puisque à Lyon et à Paris, les vélos sont retirés, ça s'arrête, c'est fini. Alors, il s'est passé plein de choses. D'abord, l'entreprise explique qu'il y a eu du vandalisme en France. Ouais. Il n'y a pas qu'en France, hein, en Italie, ça n'a pas marché non plus. Mais qu'en France, il y a trop de vandalisme et qu'il y a eu trop de vols.
Ouais. Bah, en fait, ils se rendaient pas compte. Et c'est triste, parce que ce n'est pas la bonne raison pour laquelle on n'en avait pas besoin de ces vélos. Ça démontre que le Pékin moyen, alors ce n'est pas beau comme mot Pékin d'ailleurs,
le
Français moyen est un imbécile. Hein, parce que, alors même si ça appartient à une entreprise, c'est presque un truc collectif. À un moment, c'est ces outils partagés de déplacement. Voilà, si on est respectueux un peu des choses qu'on peut partager avec les autres, on les utilise sans les abîmer. Et en France, il y a un gros souci là-dessus. Ils se sont fait dégrader, non pas pour des raisons idéologiques, non pas pour des raisons peut-être anticapitalistes. On aurait pu trouver des raisons. Non, c'est juste parce que c'est des imbéciles qui respectent rien, et notamment qui respectent pas des choses qui pourraient être utiles à d'autres, notamment pour se déplacer. Voilà. Après, et d'ailleurs, ils ont énormément de dégradations sur les vélos et les choses comme ça. Hein, ça coûte plus de 1000 euros par an de par vélo de réparation. Donc c'est un truc incroyable. Et ça, c'est un problème, je sais pas, d'éducation, de cerveau, de QI, j'ai pas de réponse facile et toute faite sans être agressif à ça, mais c'est quand même assez triste.
Alors, il y a une autre analyse qui est faite par un certain nombre de personnes qui t'aide à rappeler que ces vélos, ils étaient pas très bonne qualité. Pourquoi aussi les vélos, ils sont très lourds? C'est parce qu'en fait, on les malmène, ces vélos. On monte dans le panier
oui,
alors qu'on n'a pas le droit.
C'est la même problématique. Les gens, si c'est leur propre vélo, ils le respectent. Si c'est le vélo collectif, ils ne le respectent pas. Du coup, on est obligé de faire des vélos très très lourds. Du coup, plus... Enfin, voilà.
Et là, ces vélos étaient quand même assez... de mauvaise qualité pour
pas
certains
pire qu'un vélo
et c'est vrai il faut rappeler qu'il y avait pas de vitesse dessus hein, donc oui, c'est sûr que à Hong Kong c'est plat
mais Lyon
il y a une partie sauf qu'il y a une partie en montée quand même mais c'est vrai par exemple sur une ville comme Pékin ça c'est plutôt bien fait parce que ils étaient sur une ville plus plate avec des vraies pistes cyclables aussi donc ça marche mieux maintenant ce qu'il faudrait aussi ajouter c'est qu'au-delà de ces problèmes de qualité de vélo de dégradation de vol c'est que il y a pas que la France en Chine là où c'est développé c'est société de vélos en libre service.
Ah, pour le coup, il y en a beaucoup.
Il y a eu aussi beaucoup de dégradations et beaucoup de vols et ils sont abandonnés de partout et on en trouve de partout sur les trottoirs et ils sont pour certains en très mauvais état. Voilà, mais là, c'est sûr que ça fait 5 mois d'existence pour cette entreprise sur le territoire français, c'est tout.
Hein, et en même temps, en Chine, c'est vraiment très utilisé.
Oui, tout à fait.
On peut pas dire le contraire, on a eu plein de gens dessus.
Tout à fait. Et puis juste aussi pour dire que d'ailleurs les nouveaux Vélib sont un peu en retard à Paris.
Vous savez qu'il
y a une entreprise qui a délogé JC Déco, Smooth & Go, on en avait parlé ici. Et a priori, la mise en place des nouveaux vélos et des nouvelles installations sont très 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 lentes, puisque là, il devrait y avoir 1375 stations installées d'ici la fin de mars, et que là, pour l'instant, on en est à 315. En un mois, il va falloir en installer.
Ils ont été un peu dépassés.
Plus de 1000, ouais, ils se sont un peu planqués et un petit peu ratés. On va continuer alors toujours avec les profiteurs. On va continuer avec deux informations sur les luttes. Je vous avais expliqué que Castorama, Brico Dépôt était avec le groupe Kingfisher et qu'il y avait une réduction de postes administratifs. Je vous avais raconté ça.
Donc, c'est délocalisé en fait, je crois.
C'est délocalisé, mais en France, il y a donc 446 postes. Ouais. On connaît le nombre. Maintenant exact, hein, qui sont donc dégagés. Merci bien, rentrez chez vous. On va aller voir en Pologne comment ça se passe. Et bien la direction a décidé d'enfoncer le clou, puisque quand on est des profiteurs, on l'est jusqu'au bout. Et ils ont demandé donc au personnel.
Avant d'être viré.
De former. Les Polonais et les Polonaises.
Qui vont les remplacer. C'est quand même un truc horrible.
Je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous moi, ça m'est arrivé, donc je sais quel sentiment ça fait d'être remplacé, et de devoir former, et d'être remplacé contre mon gré, hein, et de devoir former la personne qui arrive derrière, qui parfois a des conditions de travail qui vont être moins bien payées, vous partez vous-même dans des conditions pas faciles, il y a plein de situations hein, qui ont pu vous arriver, vous partez fâché, quelle que soit la raison, enfin bon, il y a cette espèce de sentiment quand même, vous savez, la boule au ventre, Et vous en voulez pas à la personne qui est là avec vous. Vous pouvez pas lui en vouloir si vous êtes saine d'esprit, vous pouvez pas en vouloir à la personne qui va vous remplacer. On n'en veut pas aux Polonais et aux Polonaises. Hein, ils piquent pas, on n'a pas le discours du Front National dans cette émission. Ne volent pas.
Ah non, c'est pas les Polonais.
Les Polonais ne veulent pas le travail des Français. C'est une entreprise internationale qui délocalise pour réduire des coûts, tout simplement, dans son fonctionnement. Voilà. Donc j'avais juste envie de vous raconter jusqu'où sont capables d'aller les profiteurs. Donc je ne vous dis pas les travailleurs et les travailleuses de Castorama et de Brico Dépôt.
Ils sont remontés.
Ou les boules, si vous me permettez cette expression, et pas qu'au ventre. Hein. Donc, on va partir maintenant à jouer les tours. Jouer les tours, vous savez ce qu'il y a comme usine ?
Ouais, Tupperware.
Tupperware. Tupperware, c'est un peu comme Ikea, vous savez, je ne fais pas de la pub du tout pour Ikea. Hein. Mais ça fait partie de ces entreprises qu'on connaît parfois pas très bien, parfois qu'on n'aime pas du tout comme Ikea, et pourtant, tout un chacun et tout un chacune a du Tupperware chez soi. Alors, moins maintenant dans les jeunes générations, parce que la boîte en plastique, ça se trouve de partout, qu'il y a de la surmarque, de la sous-marque. Mais Tupperware, pour plusieurs générations, c'était la boîte qu'on se faisait livrer à domicile, parce qu'il y avait des vendeuses, souvent c'était des femmes, qui venaient dans les salons d'autres dames et qui vendaient leur boîte Tupperware. Hein. C'était ces petits emplois qu'on faisait souvent avant pour les femmes. Il y a eu des hommes aussi, mais il y a eu beaucoup de dames qui ont fait ce travail. Et il y avait donc 4 usines en Europe, et celle de Jouer les Tours, ça y est, elle a fermé cette semaine, définitivement. C'est une usine qui avait ouvert en 1973, donc l'autre siècle. Il y a eu jusqu'à, je crois, 500 salariés d'un truc, c'est le fou. Et puis là, il restait 235 salariés. Ça fait plus beaucoup. Il faut savoir que c'est une difficulté quand même. Donc il y a un plan social qui a été mis en place. Pendant 5 mois, les syndicats et les travailleurs et travailleuses se sont battus pour obtenir quelque chose un peu correct sur les départs. Là, la grande galère quand même pour les salariés, c'est que ce sont des gens qui ont un certain âge, sont parfois pas loin de la retraite, mais pas encore assez pour pouvoir partir avec des retraites. Puis des fois, vous savez, les pré-retraites, quand vous avez des petits salaires, c'est pas super. Hein. Enfin, je veux dire, vous perdez encore des sous, donc c'est pas toujours glorieux. Et c'est des gens, donc la moyenne d'âge, elle est de 51 ans, et puis c'est des gens qui parfois ont fait toute leur carrière dans l'usine Tupperware de Jouer les Tours. Et donc la grande difficulté aujourd'hui, c'est de retourner sur le marché du travail quand vous avez passé 30 ans dans la même entreprise et que vous avez 54 ou 55 ans, c'est-à-dire que vous allez sur un marché du travail que vous ne connaissez pas. Et là, c'est la grande inquiétude des hommes et des femmes de Jouer les Tours. Il y a eu des grèves en janvier pour essayer d'obtenir un plan sauvegarde de l'emploi correct. Il a été finalement validé par les syndicats sur place. Mais c'est vrai que c'est une région en plus où il y avait eu Michelin qui avait fermé, donc c'est une région un peu dévastée. Jouer les Tours, c'est une petite commune, donc il n'y aura pas plus d'emplois qui va se recréer comme ça avec un claquement de doigts. Donc voilà, c'est pas chouette. C'est pas chouette. Voilà. Alors, et le pire, si je peux juste finir, c'est que il y a une reprise de l'emploi sur place et que pour faire la logistique, qu'ils n'arrivent pas à embaucher parce que plus personne ne veut travailler sur l'usine. Et ils n'arrivent pas à trouver des gens et personne ne veut aller bosser là-bas dedans. Voilà.
Alors on va parler un peu des conséquences des dérèglements climatiques et notamment de la partie réchauffement climatique. Et on va parler de Luciano Liuya qui vit à Huaraz, une ville du Pérou, une ville de 130 000 habitants, une ville qui est construite en contrebas d'un lac alimenté par les glaciers de cette immense chaîne de montagnes que sont les Andes. Et le problème, c'est qu'avec les dérèglements climatiques et donc la phase de réchauffement dans cette région-là, les glaciers fondent plus, le lac a quadruplé de volume et il menace d'inonder l'intégralité de la ville. Donc y a une espèce de peur qui s'est installée. Et alors. Pour essayer de pas détruire la ville sous les eaux qui sortiraient du lac, il y a des idées. Il faudrait mettre en place déjà un système d'alerte, ensuite des équipements de pompage pour descendre les eaux en dessous, renforcer les digues. Enfin, il y a plein de choses à faire. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent et que cette ville a pas les moyens de faire ça. Donc ce Luciano Liuya, il a rencontré une ONG allemande qui s'appelle German Watch. C'était lors de la conférence du climat qui a eu lieu à Lima en 2014. C'était l'occasion de le rencontrer. Et ensuite, Greenwatch est rentré en contact avec une avocate spécialisée dans l'environnement, qui s'appelle Rhoda Verheyen. Et en 2015, elle a signé le grand groupe énergétique allemand RWE, qui possède notamment pas mal d'entreprises pour fabriquer de l'électricité, qui exploite des centrales à charbon en Allemagne. Et ils ont assigné ce groupe comme étant responsable du réchauffement climatique qui avait lieu dans le Pérou. Alors vous allez me dire, c'est qu'une entreprise, c'est qu'un groupe, sauf que c'est un groupe important en Allemagne, c'est une des 15 plus grosses entreprises qui émet des gaz à effet de serre dans le monde, donc si finalement elle est quand même responsable, alors c'est une entreprise, bon, c'est un peu symbolique, mais ils ont décidé d'attaquer. Alors, le but, hein, c'est de récupérer de l'argent pour trouver une solution pour pas que la ville péruvienne soit inondée. Alors, c'est la première fois qu'une entreprise allemande est attaquée en justice pour les effets globaux du réchauffement climatique, enfin en tout cas de l'émission de gaz à effet de serre. Il y a eu un cas équivalent aux États-Unis dans le village de Kivalina qui avait attaqué ExxonMobil, donc un des leaders de la pollution et des gaz à effet de serre dans le monde, mais la plainte avait été jugée irrecevable. Alors pour ce qui est de l'Allemagne, la plainte a d'abord été jugée irrecevable par la justice allemande. Et puis en novembre dernier, retournement de situation, le tribunal supérieur de Hamm, c'est en Rhénanie du Nord-Westphalie, a finalement accepté la plainte. Alors on ne sait pas ce qu'il y aura derrière, on aura les résultats d'ici quelques semaines. Mais symboliquement c'est important, parce que ça démontre que oui, la justice accepte que le lac qui grossit au Pérou soit causé par des grosses entreprises, et par exemple une entreprise allemande qui est quand même à l'autre bout du monde. Donc voilà, donc c'est une étape, enfin une nouvelle manière d'attaquer quelques responsables. Alors aux États-Unis, il y a eu d'autres municipalités, d'autres actions aussi contre les grosses entreprises comme ça. Alors notamment des municipalités qui ont attaqué des entreprises. Alors en Californie, par exemple, 8 villes ont déposé plainte donc cette année contre des entreprises pétrolières, des entreprises de charbon, des entreprises de gaz. Donc comme au Pérou, le but c'est de faire financer les infrastructures de protection des villes côtières. En Californie, il y a l'océan à côté, contre la montée des eaux, et de faire payer toutes les installations par les entreprises qui ont vendu ou consommé du charbon, ou brûlé du charbon ou du pétrole. Donc voilà. Alors, ça se développe. Richmond, donc ville de 100 000 habitants aux États-Unis, a fait pareil. A attaqué 29 entreprises. On ne sait pas ce que ça donne. Et il y a d'ailleurs Total qui a attaqué. Total qui est un des leaders mondiaux de l'émission de gaz à effet de serre, puisque c'est un gros pétrolier. Alors, on ne va pas renier le fait que ces entreprises soient quelque part responsables. Dans ce qu'ils disent, dans la défense, enfin dans le plaidoyer d'attaque là, de ceux qui vont en justice, c'est de dire, ça fait depuis les années 80 que les entreprises savent que la combustion des énergies fossiles a un impact sur l'atmosphère, un impact irréversible, et qu'elles ont essayé de tromper et de minimiser les choses. Alors, moi je suis pas totalement contre, sauf que ça enlève un truc important, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas que les entreprises depuis les années 80 qui sont au courant, c'est tout le monde qui est au courant depuis les années 80. Pour avoir été militant écolo dans les années 80 et au début des années 90, on avait toutes les informations sur qui polluait et quel type de pollution. Et le problème, c'est pas seulement ces entreprises. Parce que c'est facile d'attaquer Total. Mais s'il n'y a pas un imbécile qui achète une voiture et qui se déplace en voiture alors qu'il pourrait utiliser les forces de motrice naturelles que lui a donné la nature, eh ben Total, il vendrait pas de pétrole. Il vendrait autre chose. C'est une entreprise, il s'adapterait. S'ils veulent continuer à faire du business, il fera autre chose. Non. Donc en fait, en faisant ça, on dédouane tous ceux qui ont une énorme co-responsabilité. Alors je dis, donc c'est une co-responsabilité, les entreprises, elles, les pétroliers, tout ça, ils l'ont cette responsabilité. Mais il n'y a pas qu'eux qui l'a. Et elle est énormément partagée par les constructeurs automobiles, parce que eux, ils avaient le choix des alternatives. Et puis, surtout, l'automobiliste. Alors là, rien ne sera jamais fait contre le principal responsable, qui est celui qui utilise sa voiture tous les jours. Ça, malheureusement, on ne fera jamais rien contre ces gens-là. Pourtant, je vous rappelle que les automobilistes tuent par la pollution qu'ils émettent 48 000 personnes par an en France. Bon, vous allez me dire, on est 60 millions. Bon, c'est quand même des assassins en série, ces gens-là. Donc voilà. Alors, il y a d'autres actions en Europe, hein, sur des plaintes comme ça déposées contre les entreprises. Moi, je trouve que c'est un peu... Alors, ce qui est plus original, et je vais finir par ça, c'est qu'il y a des citoyens des démocraties, notamment en Europe, qui, au lieu de porter plainte contre les entreprises, portent plainte contre l'État. Parce que l'État, dans les constitutions, notamment la nôtre, est censé garantir notre santé. Et comme les conséquences du réchauffement climatique ont des conséquences sur la santé, on peut attaquer les élus en disant vous avez pas protégé notre santé. Alors c'est aussi un peu se dédouaner, mais ils ont quand même une grosse part de responsabilité parce que c'est eux qui font les lois. Hein. Et bon, c'est un peu plus logique presque de les attaquer. Mais ce qui est quand même finalement assez triste, c'est que en fait c'est une minorité de gens qui attaquent. La majorité des gens, ils continuent d'être pour la pollution. Et on a la preuve flagrante, dans tous les pays d'Europe, les seuls gens qui se présentent aux élections, les seuls politiques qui se présentent aux élections et qui sont contre l'utilisation de la voiture, des sources de pollution, etc., ils sont jamais élus nulle part. Alors il y a eu, c'est pas vrai, en Allemagne, des coalitions avec les Verts, mais ça a été minoritaire, ils ont pas pu tout faire ce qu'ils veulent, mais ailleurs, jamais. Donc il y a un truc un peu hypocrite dans toutes ces attaques. Alors c'est les gens qui attaquent, c'est pas eux qui sont forcément hypocrites, c'est tout le système qui est hypocrite. Parce que ceux qui attaquent, ça se trouve, c'est des gens qui polluent pas, qui se déplacent à pied, en transport en commun ou en vélo. Mais il y a quand même une grosse hypocrisie en disant, c'est pas nous qui sommes responsables, ce sont les grosses entreprises ou sont les élus. Voilà, il faut un petit peu, un moment, assumer ce qu'on fait et ce qu'on fait pas, et peut-être que ça fera avancer les choses, mais je pense que quand même finalement les actions contre les hommes politiques, c'est ce qui pourrait être le plus efficace pour obliger les politiques à assumer un de leurs rôles, quand c'est écrit dans les constitutions, ce qui est le cas chez nous, de protéger la santé des citoyens.
Tu disais homme politique, mais bien évidemment...
C'est homme aussi. Avec un grand H, oui, et hommes ou femmes politiques.
Politiques.
Voilà. Mais jusqu'à maintenant, et dans ces années-là, il y avait beaucoup moins de femmes. Du coup, si je par accident, j'ai masculinisé à outrance, mais ça marchait aussi historiquement, malheureusement. Alors, je vais rester dans l'écologie, l'environnement. On a eu la nouvelle cette semaine, atroce nouvelle, c'était mardi, le tribunal de Thionville, donc il y avait 8 militants de Greenpeace qui étaient poursuivis par le tribunal. Vous savez, ils sont rentrés dans une centrale nucléaire, c'est mal de rentrer dans les centrales nucléaires, donc c'est à Cattenom, en Moselle, et ils veulent démontrer que c'est facile de rentrer dans les centrales, et c'est donc potentiellement les cibles de terroristes, et c'est dangereux ces centrales. Hein, et pour le démontrer, parce que quand ils le disent, EDF leur répond, mais non, c'est pas dangereux. Mais non, on risque rien. Donc il faut leur démontrer. Et pour le démontrer, on fait comment? Eh ben, on y va, en militant, on rentre, et on fait comme Greenpeace le fait, ils ont fait un petit feu d'artifice pour qu'il soit visible, c'était chouette d'ailleurs, ouais, effectivement, pour dire, voilà, regardez, n'importe qui peut rentrer dans une centrale nucléaire. Et si on rentre à un feu d'artifice, on peut rentrer un bâton de dynamite.
Oui, parce que l'idée, là, quand même, de Greenpeace, c'est d'utiliser les propres arguments de l'État sur le terrorisme, sur tous les sujets, sur un sujet nucléaire, c'est comme Greenpeace anti-nucléaire, ils se disent, l'État arrête pas de parler de la lutte contre le terrorisme, sur le déplacement des personnes, sur les papiers, sur tout, hein, on a les plans de Vigipirate, on va leur montrer que les centrales nucléaires, alors du coup, c'est bien lui aussi, il y a du terrorisme, donc voilà. Greenpeace, son idée, c'est quand même d'utiliser ce sujet-là contre l'État et le gouvernement.
Voilà, du coup, en fait, Greenpeace se positionne en tant que lanceur d'alerte, mais du coup, c'est pas un lanceur d'alerte théorique, c'est des lanceurs d'alerte militants, c'est-à-dire qu'ils vont agir pour montrer, parce que c'est pas la théorie ils le démontrent depuis longtemps, personne ne les croit, il faut passer à la pratique pour leur montrer, avec des actions qui sont naturellement non violentes. Hein, faire allumer un feu d'artifice pour montrer qu'on est rentré dedans, ça n'a pas d'action violente. Sauf que l'État et la justice, qui est quand même pas mal le bras armé de l'État, et l'État étant pro-nucléaire pour des raisons idéologiques, ils ont tout fait pour qu'il soit condamné. Effectivement, ils ont pris 5 mois. Alors, pas tout le monde. Alors, je veux dire, il y en a qui ont pris 5 mois de prison avec sursis, donc pour 6 des 8 militants. Il y en a 2 qui ont pris 2 mois de prison ferme.
C'est incroyable quand même.
Parce qu'ils sont récidivistes, ils avaient déjà fait ça dans une autre centrale pour démontrer que c'était des passoires, les centrales nucléaires. Et c'est incroyable, quoi. On démontre que c'est dangereux. Alors, ce qu'on notera, hein, c'est qu'EDF... j'ai jamais vu un dirigeant d'EDF aller en prison. Jamais. Pourtant, ils ont des accidents. Ils ont contaminé des personnes, c'est-à-dire abîmé la santé des travailleurs. C'est nettement plus important... quand même, et plus grave d'abîmer la santé des travailleurs, plutôt que de rentrer illégalement dans un truc pour montrer que c'est facile de rentrer. Et eux, ils sont jamais allés en prison. Ils ont jamais été condamnés réellement, très fortement, à l'image des militants de Greenpeace. Donc il y a une vraie inégalité là-dessus. Hein. Vous êtes militant, vous démontrez quelque chose, vous êtes coupable, vous êtes un terroriste, vous êtes méchant, vous êtes tout ce que vous voulez. Vous êtes une entreprise, vous abîmez la santé de vos salariés, vous avez des installations qui peuvent à tout moment être attaquées par des terroristes et tuer des millions de personnes, et vous êtes bien, on vous protège, on vous dit rien. C'est quand même un vrai choix politique et un vrai choix de justice qui est un choix de justice politique.
C'est ça que moi ça me fait penser qu'aujourd'hui une entreprise peut être attaquée parce que son site web ou ses fichiers en ligne, il y a des failles et donc il y a des hackers, des hackeuses qui rentrent et qui prennent possession de nos données. Une entreprise aujourd'hui est attaquée par ça, les gouvernements veulent mettre en place des règles et des lois pour qu'il y ait de la protection. Et là, on
peut les failles de sécurité dans une centrale nucléaire, on
ça,
condamne pas.
Ça, on condamne pas l'entreprise responsable. Ça, ouais. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que c'est effectivement, comme tu le dis, un choix idéologique, économique aussi, hein, parce que bon.
Alors, il faut quand même savoir que Greenpeace a bien sûr immédiatement fait appel de ces condamnations. Il y a même le directeur de Greenpeace, hein, Yannick, le chargé de campagne de Greenpeace, Yannick Rousselet, qui est condamné, mais lui pour être le chef des terroristes. Hein, il est condamné pour avoir organisé et préparé l'action des militants. Enfin, c'est un truc assez incroyable. Voilà, c'est une justice partisane, bien évidemment. Et une justice pro-nucléaire. Voilà. Le jour où il y aura un vrai attentat, ils diront quoi? Ah ben on le savait pas? Ben non. Le problème c'est qu'ils sont coincés maintenant.
C'est grâce à Greenpeace qu'ils sont coincés. Ils accusent Greenpeace et leurs militants d'avoir en fait gêné finalement la protection du site. Et moi je me souviens quand ils avaient fait cette action, les gendarmes et d'autres autorités policières du même type s'étaient exprimés dans la presse en disant que ce que Greenpeace avait fait c'était extrêmement dangereux parce qu'on faisait perdre du temps au groupe de sécurité qui était là justement pour la centrale et que du coup c'était très très mal. C'est quand même là aussi complètement hallucinant comme analyse et comme argument. Quoi.
Voilà. Bon, le nucléaire, ça reste une société
fasciste,
totalitaire, aucune démocratie, c'est mal sécurisé, hein, on pourrait faire tomber un avion dessus, ça serait une catastrophe. Le mieux, c'est d'isoler les piscines de La Haye, hein, là c'est une catastrophe, il n'y a pas de protection, il y a des millions de mètres cubes d'éléments radioactifs. C'est un vrai truc potentiellement très dangereux que EDF et l'État refusent de rendre sécurisé un minimum. C'est un vrai choix. Pourquoi? Parce que ça coûterait une fortune. Et que, voilà, si ça coûte cher, l'électricité fabriquée par le nucléaire serait trop chère. Et du coup, on serait obligé d'abandonner le nucléaire, ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc on préfère prendre des risques plutôt qu'abandonner cette bêtise. Alors, je reste, c'est encore moi qui parle, on va parler de santé. Avec une nouvelle étude, c'est pas la première, ça sera sûrement pas la dernière. Une étude sur le cannabis thérapeutique. Petite utilisée contre les douleurs chroniques. Donc ils cherchent à savoir si ça a un impact contre les douleurs chroniques. Donc c'est une étude relativement sérieuse puisqu'elle concerne 2736 patients faits par des chercheurs israéliens, des patients de plus de 65 ans qui ont des douleurs chroniques. Voilà pourquoi ils ont pris des personnes un peu âgées, parce que à partir d'un certain âge on a des douleurs chroniques, on a des plus de maladies, du coup ils sont plus concernés. Donc voilà, ils leur ont donné ou pas des molécules. Alors là, c'est plutôt c'est pas une étude en double aveugle. Hein, c'est ils leur ont donné des dérivés contenant du cannabis sous différentes formes, hein, sous forme d'huile infusée. Il y en a qui ont inhalé la substance en la fumant et d'autres qui l'ont inhalé par vaporisation. Voilà. Et donc ils ont après demandé de se positionner sur leur ressenti sur la douleur. Et l'étude montre que 93% ont trouvé que la douleur était divisée par deux en prenant ces dérivés-là. Alors c'est positif. Bon, il y a plein d'études dessus, mais c'est une dernière qui tombe. Grosso modo, tout est positif. Alors, les effets secondaires sont, il y a quelques 9,7% de cas de gens qui ont eu des vertiges, 7% qui ont une sensation de bouche sèche. Voilà, c'est à peu près tout, les effets négatifs. Et il y a un contre-coup très positif, lui, c'est qu'en fait, ils ont, du coup, comme ça allait mieux, ils diminuent la prise de médicaments, notamment opiacés. Alors les opiacés, c'est autre forme de drogue que le cannabis, beaucoup plus forte, beaucoup plus dangereuse, avec des addictions, de l'addiction, etc. Et du coup, ça a un double impact sur la santé, c'est qu'on remplace finalement des médicaments qui sont quand même pas très bons par d'autres à base de cannabis qui sont beaucoup qui sont pas forcément très bons, mais bien moins nocifs que ceux prescrits naturellement, donc normalement. Donc voilà, c'est une nouvelle étude, ça montre que voilà, il faudrait un petit peu faire des efforts sur ça. Alors, il y a plein de pays dans le monde qui utilisent le cannabis thérapeutique. 24 pays dans le monde ont totalement dépénalisé l'utilisation du cannabis thérapeutique. Bon, on est 180 pays, donc ça fait pas non plus beaucoup, mais voilà. On rappellera que la France fait toujours figure d'exception, et pas toujours dans le bon sens. Il y a un médicament qui est à base d'extrait de cannabis, alors du THC et surtout du cannabidiol, qui s'appelle le Sativex, qui est un spray nasal qui normalement réduit la douleur des patients atteints de sclérose en plaques, donc une maladie plutôt horrible, un médicament donc qui peut être utile. Ce médicament est autorisé depuis le 8 janvier 2014. Il n'a jamais été délivré aux pharmacies pour être délivré aux patients. Alors, c'est un problème typiquement. Alors, il n'y a pas que la France qui est là-dessus, puisqu'il n'y a que 24 pays qui ont autorisé le cannabis thérapeutique. Il y a un vrai problème de blocage idéologique contre le cannabis de la part de nos politiques. Ils sont pour qu'on utilise de l'opium quand même dans les médicaments. Vous imaginez, l'héroïne, toutes ces drogues, c'est tout tiré de l'opium. Ils autorisent ça. Et ils ne veulent pas autoriser le cannabis. Il y a un problème idéologique très très fort sur le cannabis. Et du coup, le choix des hommes politiques et des femmes politiques en France, c'est de préférer que les malades souffrent plutôt qu'ils ne souffrent moins, mais qu'ils prennent du cannabis. Ça, parce que ça les obligerait à se remettre en cause. On parle du cannabis thérapeutique, je vous parle même pas du cannabis récréatif, où là, ils ont 2000 années de retard au niveau du cerveau, les hommes et les femmes politiques qui sont censés nous représenter, mais qui nous représentent finalement pas vraiment. C'est une étude de plus, voilà, c'est pour dire un truc.
Oui, la chaîne Arte avait passé plusieurs fois un très bon document réunissant des chercheurs, chercheuses, des médecins qui parlaient justement de ces bienfaits thérapeutiques du cannabis, avec évidemment les bonnes molécules qui vont bien. C'était très très intéressant parce que c'était un tour du monde, dont l'Espagne par exemple, d'autres endroits comme ça où il y a des recherches qui sont vraiment menées avec beaucoup de sérieux, et il y a même des endroits où on soigne des enfants par exemple sur l'épilepsie ou sur certaines pathologies, avec ces molécules-là. Donc c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'en avoir peur ou d'y mettre de la morale ou je ne sais quoi. Si on arrive dans certains endroits du monde à soigner des enfants pour qu'ils aillent mieux, eh ben on peut peut-être aller bien bien plus loin en France. Hein,
Ils sont tellement allergiques à l'idée du cannabis récréatif qui bloque forcément le cannabis ou les dérivés dans la santé. C'est quand même incroyable d'en être à ce point-là.
On va parler toute autre chose avant de parler de Russie. Tu disais que nous allions parler de théâtre, nous allons précisément parler d'architecture, si tu veux bien, ça va nous changer un petit peu dans cette émission.
C'est l'architecture d'un théâtre.
Oui, tout à fait, nous allons parler du théâtre, tu as bien suivi, je vois, du théâtre d'Ardolo, c'est dans le Pas-de-Calais, c'est près du Touquet. Voilà, pour vous donner un petit peu une situation. Juste à côté, pour vous donner une autre situation, vous avez le château d'Ardolo, qui est un gros machin, une énorme bâtisse néo-gothique. C'est un truc, voilà, ça pète. Bon, le théâtre d'Ardolo, pourquoi je vous en parle? D'abord parce que c'est un très 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 beau théâtre, tout en bois. C'est un théâtre élisabétain, c'est le seul en France, absolument magnifique, à l'intérieur c'est absolument magnifique, c'est en bois, c'est beau, l'extérieur on a cette forme circulaire, moi je trouve ça absolument splendide. Et ce théâtre a donc été inauguré en 2016 et il a mercredi remporté le prix de la meilleure construction en bois dans le monde. C'est le World Architecture News qui a remis ce prix à ce théâtre Ardolo. Et si j'avais aussi envie de vous parler de ça, à part de juste aiguiller un petit peu là comme ça, de titiller votre curiosité, que vous alliez voir ça sur internet, sur le web, pour voir à quoi ça ressemble, pour vous dire qu'on fait des choses très très belles. D'abord, c'est aussi un théâtre écolo. Il y a la construction évidemment du bois. Je vous rappelle qu'il y a certains matériaux de construction qui sont extrêmement polluants, hein, il faut jamais oublier ça. Donc le bois, là, il est bien traité. Il paraît un rendu pour les comédiens, les comédiennes, qui est absolument fantastique. Mais si j'avais aussi envie de vous parler de ce lieu, c'est que avant son inauguration, il a été vandalisé. Ce théâtre, il avait été écrit dessus « dette ». verrues, parce qu'il a coûté un peu cher, hein, bon, effectivement, oui, à la construction, okay. 4,3 millions, effectivement, mais enfin, 4,3 millions pour une construction complète, voilà, pour quelque chose qui va rester et qui est dédié à la culture. Moi, vous savez, des fois, les sous, je veux bien qu'on les dépense. Hein.
À la culture, ouais,
voilà, au spectacle, des fois. On est d'accord. Je suis un peu partisane, ok, d'accord. Et oui, j'aime bien le spectacle et la culture, que voulez-vous? Mais tout ce que me fait encore plus vous parler de tout ça, c'est qu'on avait accusé l'extrême droite d'avoir vandalisé ce lieu.
Oui, parce que c'est un truc un peu moderne, du coup.
Ah bah non, Ellie. Alors moi, je trouve que c'est à la fois une espèce de mélange entre une modernité et une tradition, ouais. Puisqu'il y a à l'extérieur, effectivement, on a ces bois comme ça qui sont alignés, ça fait il y a du bambou, et puis à l'intérieur on a la forme circulaire, il y a la scène qui est mobile, en fait c'est vraiment très élisabétain, donc il y a vraiment à la fois un rapport à la tradition et un hommage aussi à ce que pouvait être le théâtre élisabétain. Il a été inauguré pour les célébrations dédiées à William Shakespeare, excusez-moi, pour le 400e anniversaire de sa mort. Donc voilà, il y avait aussi une vraie cohésion de pourquoi ce théâtre a été créé. Donc je trouve très chouette que ce lieu qui a été saboté...
Et alors pourquoi l'extrême droite ?
Eh ben parce qu'en fait, a priori, ça coûtait très cher, et puis qu'a priori, c'était moche. Ouais, parce qu'il y a des gens qui sont pas très ouverts d'esprit.
Ouais, voilà. L'extrême droite, dès que c'est un peu moderne, tout ça, des fois, ils sont un peu coincés sur l'art comme sur le reste, hein, d'ailleurs.
Alors bon, j'ai pas la preuve.
Mais c'est pas eux, du coup.
Ah, j'en sais rien. J'ai pas la preuve. C'est ce que je dis, mais c'est, en tout cas, au niveau régional, c'est l'extrême droite qui avait été visée. Okay. On ne sait pas qu'à l'extrême droite. En tout cas, je peux pas vous amener de preuves sur cette question-là. Ce qui est la petite anecdote, peut-être pour finir, c'est que je peux vous donner le nom de cet architecte. Il s'appelle Andrew Todd, il est britannique et depuis le Brexit, il a demandé une nationalité française. Il veut rester ici parce que finalement, il a envie de construire d'autres trucs, certainement par ici. Voilà, c'était quand même aussi important de vous dire qui était l'architecte, parce que des fois, les architectes nous font quand même du caca, des trucs pas du tout fonctionnels, qui sont pas du tout bien intégrés dans la ville ou dans le territoire. Là, c'est pas le cas. Moi, je trouve en tout cas que c'est un très beau lieu. Voilà.
Et alors, ma petite rubrique élection piège à vous, je vous laisse. Terminé.
Chose, hein.
Ouais, on va parler de Poutine qui donc se présente aux élections russes.
Quelle surprise.
En fait, il se présente. On ne sait pas s'il se présente ou s'il est déjà élu en fait. Hein. Mais bon, c'est dans quelques jours que ça va arriver officiellement. Dans 17 jours très exactement son élection. Et là, en ce moment, il sort les gros muscles, les gros bras. Il met les on va parler comme ça. Il met les couilles à l'air parce que il est toujours plein de.
Ah, c'est viril. Lui, il est viril.
Il est hyper viriliste ce mec. Ça fait.
Il aime montrer les muscles.
Ouais. Il est vraiment plein de testostérone. Ça déborde, c'est une horreur, c'est absolument atroce. Et il est allé jusqu'au bout, puisque aujourd'hui il a fait son discours annuel sur l'armement, et il est arrivé, et on a l'impression qu'il déclarait la guerre au monde. C'était un truc incroyable. Il n'y avait pas d'amour dans son discours, il y avait que de la haine. Donc il a présenté les nouvelles armes russes, les nouveaux missiles intercontinentaux à capacité nucléaire, des ogives nucléaires pour équiper les missiles de croisière, des drones nucléaires, du nucléaire partout, des missiles supersoniques, une arme laser, tout ça. Il a dit, on est indestructible, on est inattaquable, si vous attaquez un de nos amis, vous êtes mort. Voilà en gros ce qu'il a dit. C'est triste de voir ça, moi j'ai trouvé ça absolument atroce. Bon, mais il va être élu, hein, de toute façon. La Russie est quand même très très mal partie.
Il faut quand même se souvenir que M. Poutine n'était rien à la base. Il a été placé là.
Il n'était pas rien.
Il était un militaire.
Non, il était membre des services secrets du KGB.
Ça s'appelle un militaire.
Oui, mais du coup, c'est pas rien.
Mais à la base, il n'était rien. Il a été mis en place par des gens qui pensaient pouvoir l'utiliser et faire une marionnette. Et en fait, il l'a eu tout le monde. Il a escroqué tout le monde parce qu'il a réussi à prendre une place très forte et il a viré tout le monde. Et il a l'air indéboulonnable, ce bonhomme, comme les statues du communisme soviétique.
Ah si, les statues, elles sont parties quand même.
Ouais, c'est vrai. Mais il y en reste trois. Mais c'est vrai que c'est très impressionnant quand même de voir comment cet homme a réussi à se construire une carrière et une position totalitaire dans ce pays, alors qu'à la base, il était juste là pour faire la marionnette et le guignol. Quoi. C'est quand même assez incroyable.
Le pire, c'est qu'il a quand même un discours très viriliste, très machiste, et que même les femmes votent pour lui. Quoi. Enfin, je veux dire, il y a. Ah, mais tout pour lui, en fait.
Il a réussi à recréer à la fois. Vous savez, ce qu'il aime aussi, M. Poutine, c'est quand même. Il reparle des tsars. C'est-à-dire que ça le fait vraiment rêver. Donc, il reparle de cette Russie blanche qui avait une belle civilisation. Parce que ça, vous savez, nous aussi, on a des politiques comme ça qui aiment bien la belle civilisation et la belle histoire. C'est un malin, quoi, parce qu'il va aussi chercher dans toutes les couches de la société, à la fois chez des riches, ceux qu'il aime pas. et ben les riches, les entrepreneurs, il arrive à les faire exiler, à les égouiller, enfin plein de choses. Et puis il arrive à être aussi dans les classes sociales très très populaires, où avec son discours à la fois de macho et nationaliste, ouais, il arrive à faire que les gens arrivent à trouver que ce qu'il fait c'est bien.
Voilà, donc il va être élu. On balance un peu la fin du film. Hein, tant pis pour vous. Vous n'êtes pas obligé de regarder dans 17 jours s'il sera réélu. Il sera forcément réélu, Vladimir Poutine à la tête de la Russie.
Comment on dit, t'as spoilé ça?
J'ai spoilé la fin. Oh merde, je suis désolé. Et il y a des élections en Italie ce week-end, et c'est pareil, enfin c'est pas pareil, mais c'est pas loin, puisque l'extrême droite fait des gros scores.
C'est mal barré aussi l'Italie.
Et le parti populiste, alors qui n'est pas l'extrême droite, c'est un truc un peu, qui est un parti populiste, donc bien pourri, mais qui a des idées tout mélangées, comme le sont les populistes aujourd'hui, comme l'est Paulette Mélenchon, mais qui est quand même plus à gauche, Mélenchon, mais voilà, c'est le parti 5 étoiles là.
Enfin, Mélenchon, il peut pas l'accuser d'être raciste. Parfois bête dans ses analyses et populiste dans ses analyses
En tout cas, il est nationaliste pro-armée.
Mais il est nationaliste et quand même, les 5 étoiles, moi je les trouve assez racistes.
Ouais, enfin bon, voilà. Ouais. Et c'est eux qui risquent d'arriver en tête. Donc voilà, le populisme
est bien. Beau jour.
Et sans parler de l'extrême droite qui s'implante partout en plus, c'est-à-dire les traditionnels partis d'extrême droite, c'est vraiment pas gagné. Et je voulais terminer quand même ce Canu Info, il est 52 en balançant en tapant sur les fake news, parce que le gouvernement,
les fausses informations,
voilà, non mais moi je dis fake news, moi je suis moderne, moi je suis jeune,
moi je fais la traduction,
ouais, tu traduis,
décodeur, moi voilà. Vas-y,
toi t'es décodeuse. Et donc le gouvernement prépare une loi sur les fake news et tout, et on en a eu beaucoup cette semaine sur le service public notamment, mais sur les chaînes privées aussi. Et parce que moi j'ai entendu dire que le froid tuait. Donc j'ai entendu que quand le premier SDF officiel de la vague de froid est mort, on nous a dit le froid a tué un SDF. On le rappelle que c'est pas le froid qui tue, c'est la misère sociale qui tue. Le froid il ne tue pas du tout. Sinon on serait tous égaux devant ce froid là. Et bizarrement, nous on n'est pas morts. Donc effectivement c'est ce SDF il est mort de la misère sociale, de l'inégalité qui existe, que tout le monde est bien content de voir exister. Et c'est bien ça le problème. Et le froid n'en est pas un, en fait, de problème. Voilà, si vous voulez casser cette fake news, le froid ne tue pas. C'est comme quand on nous dit que quand il fait beau ou qu'il y a de la pollution, à cause du beau temps, à cause de l'anticyclone, il y a de la pollution.
Ah, ça, non. Je crois que c'est
une belle fake news aussi. Non, la pollution, c'est
l'information que je préfère, ouais, celle-ci. On nous l'a beaucoup répété.
On l'a beaucoup dit. Non, la météo non plus n'est pas responsable de la pollution. On vous le dit.
J'en profite pour dire que il y a un appel à don du matériel pour l'amphithéâtre qui a brûlé. Il y a eu un incendie. C'est pareil. Ouais. C'est un lieu squatté assez grand. Et là, il y a un appel. Vous irez sur le site Rebellion, s'il vous plaît, si vous êtes intéressé pour donner du matériel, en particulier du matériel électrique, du câble, il y a plein de choses qui est demandé. Il y a des ampoules, des choses assez simples. Donc voilà, il suffit d'aller regarder un petit peu la liste et puis de contacter par mail si vous voulez savoir après comment donner, où donner et comment faire tout ça. Parce que l'idée, c'est de réouvrir le lieu malgré les difficultés actuelles. Et il faut savoir que tout le monde n'a pas été relogé dans le gymnase mis à disposition par la ville de Villeurbanne. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de sans-papiers qui se sont dit qu'ils allaient là-bas, ils allaient se faire mettre dehors, que des gens en situation pas tout à fait régulière, comme on dirait, n'ont pas osé aller là-bas. Donc il y a eu des éclatements sur d'autres squats ouverts, d'autres petits lieux. Mais l'idée, évidemment, après, de retrouver un lieu collectif et d'essayer de faire au mieux et de poursuivre aussi cette initiative. Voilà. En espérant que le lieu soit vraiment réhabilitable. Quoi. Voilà.
Et ben on va s'arrêter, on aura 5 minutes d'avance. On vous laisse avec un peu de bande continue et juste après l'émission, je sais pas laquelle c'est aujourd'hui, la petite cuillère peut-être. Oui,
c'est
la
ça.
Petite cuillère, tout à fait. On vous rappelle que le Canu Info, c'est normalement presque tous les jours de la semaine, 19h-20h. Nous, c'était le jeudi. Normalement, il y en a un demain, vendredi. Et que vous pouvez écouter les autres émissions de Radio Canu, puisqu'il y a plein d'émissions très sympathiques et de qualité. Je citerai quand même La Causerie le dimanche soir à 22h. Spectaculaire, je sais plus quelle est.
Le mercredi.
Et voilà. Et puis plein d'autres aussi.
D'autres.
Voilà. Si vous aimez le reggae, il y a plein de reggae, le métal, il y a plein de métal. Radio Canu, la plus diversifiée des radios.
Ouais. Ciao, ciao, et on se retrouve la semaine prochaine.
Ouais, bye bye.
La connaissance pure.